Lecture de la 8e conférence donnée par Rudolf Steiner à Munich le 1er juin 1907, extraite du cycle de conférences intitulé « Théosophie du Rose-Croix », bibliographie GA 99. Le titre donné à la 8e conférence est le suivant « Les 7 états de conscience planétaire de l'être humain ». Nous allons considérer maintenant les différentes incarnations de notre planète les unes après les autres. Ne perdons pas de vue qu'il s'agit toujours de notre Terre et que c'est elle qui passe par les différents états, saturnien, solaire, lunaire. En outre, n'oublions pas que ces incarnations étaient indispensables pour que les êtres qui vivent sur notre Terre, et en particulier les êtres humains, puissent s'y développer. Le sort de l'être humain au cours de son évolution est donc intimement lié à celui de notre planète. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé, il nous faut envisager certaines propriétés de l'âme humaine telles que nous la connaissons aujourd'hui et essayer de voir dans quelle mesure ces propriétés se sont modifiées au cours de l'évolution. Ce sont donc les variations de la conscience humaine, les différents états de conscience par lesquels l'être humain a passé, que nous allons étudier en premier lieu. Il n'y a rien dans le monde qui n'ait évolué. La conscience que nous avons aujourd'hui des choses environnantes et de nous-mêmes, nous ne l'avons pas toujours eue, et ce n'est que petit à petit que l'être humain y est parvenu. Ce que nous appelons conscience aujourd'hui, c'est la condition de l'esprit dans lequel nous nous trouvons à l'état de veille. Nous connaissons tous cet état qui nous est propre depuis le réveil, le matin jusqu'au soir quand nous nous endormons. Il consiste en ceci: nous braquons nos sens sur notre entourage et nous avons des perceptions des objets qui nous entourent. Aussi peut-on appeler cet état de conscience la conscience des choses ou la conscience objective. Nous regardons autour de nous et nous voyons des objets disséminés dans l'espace diversement colorés. Nous écoutons et nous percevons des sons qui se propagent dans l'air. Nous reconnaissons les objets ou les êtres qui les produisent. Nous touchons des objets qui sont chauds ou froids au toucher. Nous percevons l'odeur ou le goût de certaines substances. Par la réflexion, nous ordonnons et nous combinons nos perceptions sensibles et nous tâchons de comprendre les choses dont elles nous transmettent les images ou les échos. Or, c'est précisément ce travail de notre intelligence ou de notre raison sur la matière fournie par nos sens qui constitue notre conscience à l'état de veille, telle que nous la connaissons aujourd'hui. L'être humain ne l'a pas toujours eue. Mais il l'a acquise, et il ne la gardera pas toujours, mais s'élèvera à des états de conscience supérieurs. Avec les moyens que nous fournit l'occultisme, nous pouvons, dès maintenant, distinguer 7 de ces états de conscience, le nôtre occupant le milieu, précédé de 3 états et suivi de 3 autres. On pourrait s'étonner que notre état de conscience soit précisément au milieu du cycle. Cela provient du fait que d'autres états qui nous restent inconnus ont précédé le premier et que d'autres encore également imperceptibles suivront le 7e. Dans le passé aussi bien que dans l'avenir, notre regard embrasse la même durée. Si nous pouvions reculer d'une étape, nous en verrions une de plus dans le passé et en revanche, une de moins dans l'avenir. De même, si vous vous trouviez au milieu d'un champ, votre horizon à votre gauche serait, par rapport à votre position, aussi éloigné de vous que l'horizon à votre droite. Ces 7 états de conscience sont les suivants. D'abord, une conscience extrêmement réduite, infiniment atténuée, que l'être humain de nos jours connaît à peine. Il n'y a guère que certains médiums qui peuvent aujourd'hui descendre à ce niveau, alors que cet état de conscience était le partage de tous les êtres humains sur l'ancien Saturne. Ces états médiumniques ne sont pas inconnus de la psychologie moderne. La conscience de l'état de veille se trouve éclipsée, comme endormie, et le médium a l'apparence d'un mort. Mais lorsque dans cet état de transe ou même après son réveil, le médium se met à dépeindre ou à dessiner ce qu'il a vu ou vécu, ces éponges nous révèlent un monde singulier qui n'est pas le nôtre. Ces dessins peuvent être grotesques, ils n'en rappellent pas moins ce que nous appelons dans la science occulte des états cosmiques. Ils sont généralement inexacts, voire faux. Mais on peut tout de même reconnaître que le médium développe, pendant sa transe, un état de conscience qui, quelque diffus, quelque nuageux qu'il soit, a quelque chose, entre guillemets, d'universel. Il perçoit véritablement les corps célestes qu'il dessine. Cette conscience infiniment atténuée, mais globale et en quelque sorte omnisciente, était la conscience de l'être humain au cours de la première incarnation de notre Terre. On l'appelle l'état de transe. Dans notre entourage, il y a des êtres qui aujourd'hui encore ont cette conscience rudimentaire. Ce sont les minéraux. S'ils pouvaient parler, ils vous raconteraient ce qui se passe sur la planète Saturne. Le second état de conscience que nous connaissons, ou plutôt que nous ne connaissons pas parce que dans cet état nous dormons, est la conscience au cours de notre sommeil. Cette conscience est moins vaste, moins étendue que la première, mais elle est relativement plus claire. Lorsque la Terre en était à sa deuxième incarnation, à son incarnation entre guillemets solaire, tous les êtres humains avaient cette conscience ensommeillée. Pendant cette étape, l'ancêtre humain n'a fait que dormir. Cette conscience existe encore de nos jours et ce sont les végétaux qui en sont pourvus. Les plantes dorment sans jamais se réveiller et elles pourraient, si elles avaient le don de la parole, nous raconter ce qui se passe sur le soleil. Elles ont en fait une conscience entre guillemets solaire. Le troisième état, qui au regard de notre état de veille est toujours encore amorti et brumeux, est ce qu'on nomme entre guillemets la conscience des images. Nous pouvons nous en faire une idée si nous considérons le déroulement des rêves dans notre sommeil. Toutefois, il ne faut pas oublier que nos rêves ne sont qu'un souvenir effacé, qu'un lointain écho de ce qu'était l'état de conscience des êtres humains à l'époque lunaire. Mais nous pouvons partir du rêve actuel pour essayer de comprendre cet état entre guillemets lunaire de la conscience. Quoique la façon dont nos rêves évoluent soit généralement chaotique et désordonnée, nous pouvons, dans ce désordre même, distinguer certaines règles. Premièrement, le rêve est un étrange inventeur de symboles. Dans mes conférences, j'ai souvent cité certains exemples pris sur le vif. Vous rêvez que vous poursuivez une grenouille verte, que vous l'attrapez, que vous éprouvez le contact de ce petit corps lisse, vous vous réveillez en serrant dans la main un pan du drap de lit. Si vous n'aviez pas dormi, vous vous seriez rendu compte du mouvement de votre main pour saisir le linge. Mais la conscience du rêve ne vous donne qu'une image de l'acte matériel et transforme en symbole ce qui est un fait pour la conscience éveillée. Un autre exemple. Un étudiant rêve qu'entrant dans une salle de cours, il est provoqué par un camarade. Accompagné d'un médecin et de son témoin, il va se battre en duel. Dans tous les détails, il voit l'action se dérouler jusqu'au premier coup de pistolet. À ce moment, il se réveille et se rend compte qu'il a, dans son sommeil, renversé une chaise à côté de son lit. À l'état de veille, il aurait simplement entendu la chaise tomber, mais le rêve transforme en drame cette chute prosaïque. Vous remarquerez en outre que dans ce rêve, l'écoulement du temps obéit à d'autres lois. C'est pendant le court instant de la chute de la chaise que tout le drame du duel lui a passé par la tête, y compris les préparatifs qui y ont mené. Le rêve recule le temps, le comprime. Il a son temps à lui qui n'est pas le nôtre. Il transforme le temps comme il métamorphose les faits de la vie courante. Mais ce ne sont pas seulement des événements extérieurs qui sont ainsi symbolisés, mais aussi des processus internes de notre propre corps. on peut rêver qu'on se trouve dans un souterrain et qu'on voit s'approcher d'affreuses araignées. On se réveille avec des maux de tête. La boîte crânienne est devenue le souterrain et les douleurs de vilaines araignées. Le rêve de l'être humain actuel symbolise des événements extérieurs ou des processus internes. Mais il n'en était pas ainsi lorsque, sur l'ancienne Lune, ce troisième état de conscience était la condition normale de l'humanité. La vie intérieure de l'être humain d'alors se ramenait à une succession d'images comparables à celles de nos rêves, mais ces images représentaient des faits réels. Elles signifiaient pour lui des réalités, comme la couleur bleue est une réalité pour nous, sans compter que la couleur à cette époque, au lieu d'adhérer aux objets sensibles, flottait librement dans l'espace. Dans cet état de conscience, l'être humain lunaire n'aurait pas pu, comme aujourd'hui, descendre dans la rue, apercevoir un passant, le dévisager, l'approcher, car des formes à surface colorée auraient été pour lui imperceptibles. Sans compter que l'être humain d'alors ne pouvait marcher comme l'homme d'aujourd'hui. Mais supposons que, sur la Lune, un être humain en aurait rencontré un autre. Il aurait perçu une configuration colorée, planant librement devant lui. Cette image fut-elle laide, il aurait cherché à l'éviter. Dans le cas contraire, il s'en serait approché. Une vilaine image aurait été pour lui le signe que l'autre nourrissait à son égard des sentiments d'antipathie. Une belle image, que l'autre était bien disposé. Supposons qu'il y ait eu du sel sur l'ancienne Lune. Quand aujourd'hui vous voyez du sel dans la salière, il vous apparaît comme un objet dans l'espace, de consistance granuleuse, d'une certaine couleur. Il en aurait été autrement sur l'ancienne Lune. Le sel, en tant qu'objet, vous aurait été imperceptible. Mais vous auriez perçu une configuration de forme et de couleur particulière qui, émergeant de l'endroit où le sel matériellement se serait trouvé, aurait plané librement devant vous et vous aurait indiqué la nature de la substance. Ainsi, toute la conscience était remplie d'images et de couleurs vivantes. L'être humain s'y mouvait comme dans une mer de formes changeantes, diversement colorées, mais ces images lui indiquaient ce qui se passait autour de lui, lui signalaient l'ambiance en quelque sorte morale dans laquelle il évoluait, lui permettaient de distinguer les influences bienfaisantes et celles qui lui étaient nocives. Ainsi, l'être humain prenait contact avec son entourage et s'y orientait facilement. Lorsque l'ancienne Lune s'est réincarnée pour devenir notre Terre, cette conscience-là s'est transformée en notre état de conscience actuel, et ce n'est que dans nos rêves que nous retrouvons des vestiges de cette conscience entre guillemets lunaire antérieure. Nos rêves ne seront donc qu'un rappel rudimentaire d'un lointain passé, comme nous en relevons des exemples dans notre organisme physique. Vous savez par exemple que la région de l'oreille présente certains muscles atrophiés qui dans le passé servaient à mouvoir l'oreille. Aujourd'hui, presque généralement, la possibilité de bouger l'oreille a disparu. Ainsi, l'être humain présente des vestiges de fonctions jadis vivantes, les images des rêves, pour illusoires qu'elles soient aujourd'hui, livraient autrefois à l'entendement une fidèle représentation du monde extérieur. De nos jours, nous retrouvons cette conscience chez les animaux qui sont dépourvus d'un organe interne capable de produire un son. Notez bien cette distinction. Nous avons en effet dans l'occultisme une division du règne animal bien plus judicieuse que dans la zoologie actuelle. Nous distinguons des animaux aphones et d'autres pourvus d'organes vocaux. Certains animaux inférieurs peuvent, à vrai dire, produire un son, mais seulement par quelques moyens mécaniques, par friction par exemple. C'est le cas pour les grenouilles. En revanche, les animaux supérieurs, dont l'apparition sur Terre coïncide avec le moment où l'être humain a appris à manifester sa joie ou sa douleur par des sons, ont été dotés à leur tour du pouvoir d'extérioriser, par la voix, leur satisfaction ou leur souffrance. Tous les animaux à faune ont cette conscience imagée que nous avons décrite. Il n'est pas vrai que les animaux inférieurs perçoivent les objets sensibles en images aussi rigoureusement circonscrites que nous. Lorsqu'une écrevisse, par exemple, perçoit une image qui lui fait une impression désagréable, elle cherche à fuir le danger. Elle ne voit pas l'objet en question, mais elle perçoit le danger sous forme d'une image repoussante. Le quatrième état de conscience est celui de tous les êtres humains de notre temps. Les images colorées que l'homme percevait autrefois planant librement dans l'espace s'identifient, pour ainsi dire, aux objets sensibles. Elles les enveloppent et en délimitent les contours. Elles adhèrent aux choses, au lieu qu'auparavant elles paraissaient flotter dans l'espace. Par là, elles sont devenues l'expression même de la forme visible. Ce que l'être humain avait porté en lui-même s'est pour ainsi dire extériorisé et est devenu inhérent aux objets qui l'entourent. En conséquence de quoi, l'être humain est parvenu à l'état de veille qui caractérise sa conscience actuelle. Considérons maintenant un autre aspect de cette évolution. Comme nous l'avons déjà dit, le corps physique a été préparé sur l'ancien, entre guillemets, Saturne. Le corps éthérique ou corps vital est venu s'y ajouter sur l'ancien Soleil et a pour ainsi dire imprégné et transformé ce corps physique. Sur l'ancienne Lune est apparu le corps astral qui à son tour l'a modifié. Sur Saturne, ce corps physique était encore rudimentaire. Sur le Soleil, par l'action du corps éthérique, il devint plus complexe et plus accompli. Sur la Lune apparut le corps astral et sur la Terre le « je », de sorte que ce corps physique se perfectionna de plus en plus. Sur l'ancien Saturne, où le corps physique n'était pas encore imprégné du corps éthérique, les organes dont ce corps est aujourd'hui pourvu lui faisaient encore défaut. Il n'avait ni glandes, ni système nerveux ou sanguin. Les seuls organes dont l'être humain fut alors doté étaient les organes sensoriels. Rudimentaires sur Saturne, les sens ont atteint aujourd'hui un stade plus évolué que les autres organes, ayant eu le temps de perfectionner leur structure interne, si digne d'admiration. Ces merveilleux instruments que sont l'oreille et l'œil humain, ainsi que tous les autres organes des sens, n'ont atteint leur perfection qu'à notre époque, parce que, issu de la masse de l'ancien Saturne, le corps éthérique, le corps astral et le jeu y ont travaillé au cours des incarnations planétaires suivantes. Il en est de même pour le larynx. Il était en quelque sorte préfiguré sur Saturne, quoique l'être humain y fût encore privé de parole. Ce n'est que sur l'ancienne Lune que l'être humain a commencé à émettre des sons et des cris inarticulés, mais il a fallu toute la longue préparation dont nous venons de parler pour que cet organe devînt tel que nous l'avons aujourd'hui. Sur l'ancien Soleil, où est apparu le corps éthérique, les organes des sens ont subi une lente transformation. Mais d'autres organes vitaux vinrent s'y ajouter qui régissent principalement la sécrétion interne, la nutrition et la croissance. Ces organes-là ont donc leur germe sur le Soleil. Sur l'ancienne Lune, le corps astral y a travaillé, et le jeu sur notre Terre. Ainsi, ces organes qui comprennent en particulier tout le système glanduaire ont peu à peu atteint leur perfection actuelle. C'est sur l'ancienne Lune, sous l'influence du corps astral, que le corps humain fut pourvu d'une ébauche du système nerveux. C'était à l'époque où l'être humain vivait dans un état de conscience imagé. En revanche, ce fut le jeu qui lui donna son sang, ce jeu qui a permis à l'être humain de développer son état de conscience actuel et qui l'a rendu capable d'exprimer par la voix ses joies et ses douleurs. Ainsi, l'univers entier a concouru à élaborer nos organes sensoriels, les systèmes glandulaires, nutritifs et reproductifs ont leur origine dans l'activité du corps éthérique, le système nerveux est dû au corps astral et le sang est l'œuvre du jeu. qu'il y ait un rapport entre le sang et le jeu humain, nous le constatons par exemple dans le cas d'anémie, où le sang n'est plus à même d'entretenir la conscience éveillée. Les malades tombent dans un état de somnolence qui ressemble à l'état de notre conscience sur l'ancienne lune. Considérons maintenant les trois états de conscience qui suivront le nôtre. On peut se demander comment il est possible d'en savoir quelque chose dès maintenant. En fait, cela se peut grâce à l'initiation. L'initié peut développer en lui ses états en quelque sorte par anticipation. Le premier des trois, qu'on appelle l'état psychique, englobe la conscience imagée et la conscience à l'état de veille. Si dans cet état vous considérez un être humain, vous le voyez aussi distinctement qu'à l'état de veille, mais en même temps, vous voyez émaner de lui ce qui vit dans son âme, dans une nuée de couleurs et d'images que nous appelons l'aura. Pendant ce temps, vous exercez sur vos facultés un contrôle absolu, comme l'être humain d'aujourd'hui à l'état de veille, tandis que l'être humain de l'ancienne lune avait une conscience en quelque sorte obnubilée, comparable à l'état de rêve. L'humanité entière développera cette conscience, dite psychique, sur la planète qui succédera à notre Terre, sur Jupiter. Un sixième état de conscience sera le lot de l'humanité future. Cet état comportera non seulement l'actuel état de veille et l'état psychique, que seul l'initié est à même de connaître aujourd'hui, mais encore il permettra à l'être humain de garder dans sa conscience toutes les expériences de l'âme que l'homme actuel fait en dormant. Cette conscience, dite inspirative, donnera le moyen à l'être humain de pénétrer profondément dans les êtres qui l'entourent et d'en reconnaître la nature. Non seulement il verra des formes et des images colorées, mais il entendra des sons émis par les entités. Chaque individualité humaine sera pour ainsi dire accordée sur un certain ton, et ces tons, résonnant à l'unisson, formeront une symphonie. Ce sera là l'état de conscience de l'être humain lorsque notre planète aura atteint le stade de Vénus. L'être humain y percevra l'harmonie des sphères que décrit Goethe dans le prologue de Faust. Le soleil résonne comme dans les anciens temps, en accord avec les autres sphères planétaires, et il parcourt son orbite dans un fracas de tonnerre. Lorsque notre Terre en était à son stade solaire, l'être humain percevait vaguement cette musique des sphères. Sur Vénus, il l'entendra à nouveau, entre guillemets comme dans les anciens temps. L'image de Goethe se révèle exacte jusque dans le détail. Le septième état de conscience est la conscience spirituelle. C'est la conscience la plus élevée. Cette conscience, à vrai dire universelle, permettra à l'être humain de dépasser par l'esprit les bornes de notre planète et de percevoir ce qui se passe dans l'entourage cosmique de celle-ci. Déjà sur Saturne, l'être humain avait une conscience en quelque sorte universelle, mais elle était infiniment atténuée. Il la retrouvera à un échelon bien supérieur. Cette nouvelle conscience viendra s'ajouter à toutes les autres lorsque l'être humain aura atteint le stade de Vulcain. Ce sont là les sept états de conscience par lesquels l'être humain doit passer dans son pèlerinage à travers le cosmos. Et chaque incarnation de notre planète fournit les conditions nécessaires à l'éclosion de ces sept états successifs. C'est parce que sur la Lune, l'être humain a reçu les germes de son système nerveux que ce système a pu, sur notre Terre, donner naissance au cerveau actuel et douer l'être humain de la conscience à l'état de veille. Il faut que des organes puissent se développer qui soient en quelque sorte l'instrument physique des états supérieurs de la conscience, accessible à l'initié dès aujourd'hui. C'est là le sens de l'évolution humaine que l'être humain puisse passer par ces sept stades planétaires. Chaque incarnation planétaire est liée au développement d'un des sept états de la conscience humaine et fournit les conditions requises à la naissance d'un organe physique correspondant. Vous aurez un organe supérieur psychique sur Jupiter. Sur Vénus, vous serez doté d'un organe qui permettra à l'être humain d'avoir une conscience accessible aujourd'hui à l'initié, lorsqu'il s'élève jusqu'au plan dévachanique. Et sur Vulcain régnera une conscience correspondant à celle que l'initié développe sur le plan du dévachant supérieur ou plan mental. Demain, nous étudierons ces planètes une à une. Notre Terre avait autrefois, par exemple, aux époques atlantéennes et lémuriennes, un aspect bien différent de ce qu'elle est aujourd'hui. Et elle se modifiera dans les temps à venir. De même, la Lune, le Soleil et Saturne ont passé par différents états et Jupiter et Vénus comporteront, eux aussi, des étapes distinctes les unes des autres. Nous avons appris à connaître aujourd'hui les grandes révolutions planétaires. Nous verrons demain les transformations que ces planètes ont subies alors que la vie humaine s'y épanouissait.